record of the delightful piece they're going to play this evening.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Lyon Première pour l'Art Déco. Quoi de plus naturel de parler de bons produits et de gastronomie dans un lieu comme celui-ci? En effet, perché sur notre colline à quelques encablures du théâtre antique, le restaurant de Christian Tête-d'Oie à l'Anticaille sert d'écrin à cette émission. La gourmandise est célébrée en cette période de fête, de fin d'année, et nous allons évoquer avec des passionnés quelques produits susceptibles de nous donner des idées, des envies et évidemment l'eau à la bouche. Pour m'accompagner dans cette tâche difficile, j'ai choisi un complice, Michel Godet, critique gastronomique pour lyonsaveur.fr. Michel Godet, vous connaissez bien Lyon et sa gastronomie. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait de cette ville la cité la plus gourmande de France, selon vous ?
J'oserais dire tout d'abord, bonjour, que Lyon est beaucoup plus que cela. C'est également la capitale mondiale de la gastronomie. Un titre qui lui a été donné en son temps par des gastronomes qui sont passés entre Rhône et Saône. Il y a pour moi une chose qui est prédominante en ce qui concerne le qualificatif de Lyon comme ville gourmande et comme ville gastronomique. Je pense que sans conteste, c'est la présence autour de Lyon de tout un tas de produits, qu'ils soient des produits vitivinicoles. Nous sommes au cœur d'un certain nombre de vignobles. On ne va pas parler de la Bourgogne, mais le Beaujolais, les Côtes-du-Rhône, n'oublions pas non plus le Bugey, les vins de Savoie, les coteaux du Lyonnais, les vins d'Ardèche un tout petit peu plus bas, le Candrieux, les vins de Vienne. Nous sommes entourés par de très très belles choses et de très bons produits. Cela est valable, bien entendu, pour le vin, pour les boissons, les jus de fruits, avec la vallée du Rhône, le sud de Lyon, et puis également tout un tas de produits, j'allais dire les cochonneries militantes. Le porc ici également en Rhône-Alpes est très prédominant, à Lyon en particulier, et puis de l'élevage, la volaille de Bresse à quelques kilomètres, les fromages, et nous allons en parler tout à l'heure avec bonheur, la charcuterie, j'en ai dit un mot. On est véritablement, Gaël, au cœur d'une région qui est très très riche en produits.
Alors j'ai envie de vous dire, Michel, que c'est pas la seule région de France qui a, autour de sa géographie, on va dire, des beaux produits. Alors, il y a quand même autre chose.
Trouvez-vous d'autres régions où vous avez autant de vignobles, où vous avez autant de bons produits, ouais, qu'ils soient d'élevage, qu'ils soient agricoles. Il y en a, certes, c'est vrai. Lyon n'est pas la seule, mais Lyon est la plus importante. Et lorsque les chefs vous auront dit, Christian Tête-d'Oie ne manquera pas de le préciser tout à l'heure, comme nos amis fromagers et charcutiers, on ne fait de bons mets qu'avec
des bons produits. C'est certain.
Bocuse l'a dit, tous le disent.
Moi, j'ai envie de dire aussi que les produits, certes, sont absolument capitales. On va en reparler absolument, mais qu'il y a aussi...
Capital, j'oserais même dire que ce sont les 7 péchés capitaux.
Oui, c'est vrai. Alors, on peut parler aussi d'une terre favorable à l'entrepreneuriat des métiers de bouche. Tout cela en même temps, et ça, c'est un point très important de signifier que depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, beaucoup d'entrepreneurs ont ouvert des boutiques, des restaurants, etc. Il y a une terre entrepreneuriale autour des métiers de bouche qui est bien plus ancien, on va dire, que notre époque actuelle. Tout simplement parce que aussi le terrain économique est favorable, n'est-ce pas, Michel ?
Je vais rebondir tout à fait facilement. Vous me l'amenez sur un plateau, ma chère Gaëlle. Il y avait, entre autres, à Lyon dans le temps, les maires. Qu'étaient les maires ? C'était des dames cuisinières qui faisaient justement les mets, qui préparaient les plat pour les chefs d'entreprise, pour les industriels. C'est venu de là aussi. Tout est dans tout.
Alors Lyon, c'est aussi quelque chose qui marche avec la gourmandise et ses habitants, le pouvoir d'achat élevé aussi de notre région. Il faut pas se le cacher.
C'est un faux problème pour moi.
En tout cas, on est dans une région favorable à la gastronomie, tout simplement, puisque d'autres régions n'ont pas forcément notre bassin d'emploi, notre dynamisme économique qui favorise bien sûr les métiers de bouche que vous représentez, messieurs, et l'activité qui est aussi favorable.
Ça me gêne un peu lorsque vous parlez de pouvoir d'achat. Certes, il est un petit peu plus important, mais je crois que beaucoup plus qu'un pouvoir d'achat, c'est une qualité de manger, une qualité de vivre, une qualité de se nourrir au véritable sens étymologique du terme. L'argent, certes, mais personnellement, je préfère un demi-fromage de qualité affiné par notre ami Étienne Boissy, plutôt qu'un fromage complet qui est dur comme du bois et qui vient d'un industriel dont je ne connais même pas le nom.
Oui, évidemment. Alors ça, c'est vrai qu'on est aussi dans des métiers de bouche qui sont tout à fait particuliers, puisqu'on est du produit au consommateur, pratiquement.
Allez-vous parler de chaîne ?
Quelques encablures et quelques kilomètres. Moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose d'important. Il y a quelques mois encore, au Musée Gadagne, on rendait hommage à ses compagnons du devoir, etc.
Toujours, c'est valable jusqu'au mois de janvier, cette exposition.
L'exposition
qui est
toujours
faite
valable
par les compagnons du devoir, mais pas uniquement, hein, car vous savez qu'il y a 3 associations compagnoniques sur Lyon.
Bien sûr. Et j'avais envie simplement de rappeler qu'un très bel ouvrage était sorti qui s'appelle Absolu, de 1950 à aujourd'hui, les meilleurs ouvriers de France du Rhône. Et Christian Tédois en fait partie, ainsi que la famille Mons est représentée également.
Étienne Boissy. Voilà. N'a pas mis sa veste au col bleu-blanc-rouge aujourd'hui parce qu'il était dans son automobile, mais il l'a aussi, et non seulement il l'a, mais il le mérite, car vous savez que le col bleu-blanc-rouge, c'est le Graal.
Oui.
C'est le Graal de la qualité, et au-delà de ça, c'est également un état d'esprit. On ne parle pas assez de l'état d'esprit des meilleurs ouvriers de France, comme l'on pourrait également parler de l'état d'esprit des compagnons. Avant toute chose, c'est une façon de voir, c'est une façon de transmettre, c'est très important, c'est une modestie. Et puis tout meilleur ouvrier de France qui se respecte vous dira, à partir du jour où on m'a remis le col bleu blanc rouge, c'est le début du travail et des difficultés qui commencent.
Et alors c'est vrai que Christian a une petite anecdote peut-être à ce sujet. Quand on l'interroge pour la fabrication de ce livre justement sur les meilleurs ouvriers de France, il dit « Ce qu'il me reste comme souvenir du concours de MOF, de la fatigue, j'ai mis 6 mois à m'en remettre ». Est-ce que vous pouvez confirmer, Christian ?
Oui, absolument. C'est vrai que... Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ça a été une épreuve, bien sûr, physique, morale, parce qu'il faut beaucoup se préparer. C'est un travail d'abord contre soi, parce qu'il faut ce jour-là lutter contre ses défauts personnels pour essayer de livrer le meilleur travail. Et puis, effectivement, après, derrière, comme le disait Michel, c'est vraiment le début de quelque chose. On sent toute la charge de la responsabilité, parce que forcément, quand les gens viennent chez un meilleur ouvrier de France, ils attendent une certaine prestation, ils attendent une régularité dans la qualité. Et donc, du coup, eh bien, on prend ça plutôt comme une charge sur les épaules et il faut en être digne après tous les jours.
Alors, le meilleur ouvrier de France en 1997, et c'est le début, enfin pas le début, hein, parce que vous étiez déjà dans ce métier-là, mais en tout cas, d'une très belle aventure concrétisée, évidemment, avec ce très beau restaurant de l'Anticaille. On en reparle juste après la pause. On revient après la pause d'info. À tout de suite, messieurs.
Un bouillon de culture servi sur un plateau et enregistré chez Christian Tédois dans son restaurant de l'Anticaille. Retrouvez nos invités tous les jeudis de 12h à 13h et les vendredis de 18h à 19h sur notre antenne.
Les programmes, l'équipe, les infos, les annonces emploi, les sorties, les bonnes adresses, vous voulez tout savoir sur Lyon Première, rendez-vous sur le site internet de la radio lyonpremière.com, le site qu'il faut absolument consulter pour vivre Lyon au quotidien, www.lyonpremière.com. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Ladies and gentlemen.
Pour la seconde partie de notre émission consacrée à la gastronomie cette semaine, l'Art déco vous propose de vous promener à travers le terroir, on l'a dit tout à l'heure avec Michel Godet, tout ce qui environne Lyon et produits, qualité des produits, beauté du paysage évidemment, mais au-delà de ça, bien sûr, les qualités qui sont reconnues. Les bons produits de notre région, pour en parler, nous avons deux spécialistes, finalement aussi le chef, bien sûr Christian Tête-d'Oie, mais aussi un spécialiste du fromage, Étienne Boissy. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je suis ravie de vous recevoir, Étienne, pour parler de la fromagerie Mons. Tout le monde ne connaît peut-être pas cette institution des Halles. Alors est-ce qu'on pourrait situer un peu dans le temps d'abord cette histoire de Mons, parce que c'est une histoire d'abord de famille et une histoire qui commence à remonter aux années 60.
Tout a commencé avec Hubert Mons, qui est donc arrivé de son Auvergne natale et qui s'est installé donc dans la région rouennaise. Là, il vendait des fromages sur les marchés. Et ensuite, donc, les deux fils sont arrivés, Laurent et Hervé. Ils ont repris la suite. Ils ont travaillé déjà avec leurs parents. Ils ont repris la suite. Ensuite est venue donc la première boutique de la maison à Rouen, au Halles d'Hydro, à la création des Halles d'Hydro. Et puis, très vite, Hervé s'est rendu compte de toute la difficulté de pouvoir avoir des produits de qualité tout le temps et avec un affinage régulier. Donc, ils ont décidé de créer les caves d'affinage à Saint-Ans-le-Châtel.
Un joli
petit village, tout à fait, voilà. Un joli petit village sur la côte rouennaise. Ils ont travaillé donc avec les producteurs avec qui ils travaillaient déjà. Ils ont développé auprès de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on a par exemple 150 producteurs avec qui on travaille, certains en exclusivité. Ces caves d'affinage se sont développées par également une ouverture à l'export, puisque aujourd'hui, la maison Mons exporte dans 52 pays différents. Et puis les magasins, depuis quelques années, on a souhaité recentrer un petit peu en ouvrant des magasins dans la région. Donc aujourd'hui, on va avoir à peu près une dizaine de magasins différents. Mmh. En 2007, je me suis donc associé avec Hervé et nous avons repris la fromagerie Maréchal au Halles de Lyon et ouvert donc ce magasin ensemble.
Étienne, un petit mot sur le tunnel d'affinage, hein, qui est quand même une de vos spécialités rouennaises et assez exceptionnelle.
Tout à fait. Donc le tunnel de la Collonge. Donc aujourd'hui, maintenant, ça fait 6 ans qu'il est en fonctionnement. Donc c'est par un petit hasard que Hervé a retrouvé par un habitant d'Ambierle l'existence de ce tunnel. Historiquement, c'était un petit taco qui reliait Vichy à Rouen, qui avait été abandonné.
Donc c'est un vrai tunnel ferroviaire.
Que dans un tunnel, les conditions pour l'affinage sont pratiquement requises. Parce que vous avez un taux d'humidité plus de 95%.
Constant.
Mmh. Une humidité autour de 8-9 degrés. Nous comptons dans les années à venir, peut-être dès l'année prochaine, avoir un petit coin dégustation où nous pourrons convier nos amis lyonnais pour faire la visite du tunnel, voir comprendre un peu ce que c'est que l'affinage.
Bien sûr.
Et déguster les fromages directement à la source.
Je voudrais qu'on parle aussi du centre de formation Opus Caseus Concept. La fromagerie Mons, c'est pas seulement une boutique, c'est pas seulement un tunnel où on affine, c'est pas seulement le réseau de tout ça, c'est aussi quelque chose qui va dans la formation et la transmission.
C'est vraiment important.
On en a parlé tout à l'heure avec Michel et Christian. Bon, c'est vrai que Hervé a été meilleur ouvrier de France fromager, c'était de la première promotion en 2000. Moi, je l'ai passé en 2004. Donc, ce souci de transmission, eh bien, nous l'avons tous, chacun dans nos magasins, bien sûr, avec nos équipes. Mais l'idée était des écoles de fromager, ça n'existe pas. L'affinage se transmet de père en fils. Et aujourd'hui, on a, par rapport à tous les contacts qu'on a à l'étranger, beaucoup de demandes. Les clients veulent comprendre pourquoi le fromage que l'on affine est différent des autres. Mmh. Et c'est vrai que ce centre de formation se développe petit à petit. Et on a des élèves du monde entier aujourd'hui.
Alors justement, on s'intéresse à l'affinage des fromages au Japon, en Thaïlande, en Australie, partout finalement. Oui. Et on se dit finalement que c'est une façon d'apporter un produit plus qualitatif, plus long en bouche. Qu'est-ce que ça apporte finalement cet affinage? Parce que moi-même, je ne le sais pas véritablement et peut-être que mes auditeurs non plus.
Pas de bon fromage sans bon lait. La qualité première, c'est ça. Trouver les bons producteurs qui travaillent bien, qui sont bien placés, avec le choix de vaches, de chèvres, de brebis qui correspondent à une région. Après, on a des bons producteurs qui vont bien travailler. Et ensuite, effectivement, dans nos caves, on va apporter des soins au fromage. On va les brosser, on va les laver, on va les frotter, on va les tourner. Et on va les goûter, on va les tester. Et on va les laisser évoluer. Et le moment où on verra que le produit est bien,
est à maturité,
à ce moment-là, on va le vendre.
Vous parliez tout à l'heure, et ça m'a interpellée, de produits en exclusivité. Ça veut dire que vous signez, en quelque sorte, un peu comme avec ces créateurs de fromage, une exclusivité comme on signe avec des designers, une exclusivité sur tel ou tel produit. Comment ça se passe?
Non, alors c'est une poignée de main. Il n'y a pas de signature.
Ouais, bien sûr.
C'est une poignée de main,
comme
mais c'est
dans
des
ces
moments,
métiers.
Toujours des moments incroyables d'aller voir les producteurs avec qui on travaille.
Et ils inventent des nouveaux fromages encore aujourd'hui?
Alors on fait des... ça nous arrive aujourd'hui de créer des fromages.
De co-créer finalement.
Oui, de créer avec les producteurs. Ouais. Et là, je vous ai amené, on pourra déguster tout à l'heure.
Bien sûr.
Le petit dernier de la maison qui s'appelle le Petit Sornin. Petit Sornin, donc le Sornin, c'est une rivière qui coule à Pouilly-sur-Charlieu, donc à côté de Roanne. Et on a fait avec la brasserie du Sornin un fromage, donc type fromage du Nord un peu, maroilles.
Pour ne pas le citer.
Voilà, ce fromage est frotté pendant 90 jours à la bière. Vous le trouverez nulle part ailleurs que dans les fromageries Mons.
Oui. D'accord. Voilà. Pour se démarquer, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas justement ce type de projet, ouais, c'est-à-dire des choses qui vont faire revenir les gens parce que c'est chez vous qu'on le trouve et pas ailleurs? Fidélise aussi une clientèle avec des produits bien spécifiques, ouais, en fait, presque une marque, un logo, une marque,
oui,
quelque chose,
oui, mais
un label.
Oui, mais d'accord avec ça, mais toujours en mettant en avant le producteur. Parce que sans les producteurs, nous, affineurs, on n'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est le grand, c'est la grande, c'est pas une inquiétude, mais toute notre énergie est aujourd'hui, et Hervé Mons, s'il était là, il le dirait, il parcourt France entière auprès de nos producteurs pour les aider, pour les rassurer. C'est vraiment aujourd'hui... Si
parce que la filière laitière, voilà, on en parle quand même, voilà, beaucoup et c'est quand même pas facile avec la ferme des 1000 vaches et compagnie. Hein, on sait que tout ça est très très compliqué, c'est très tendu et que pour eux, c'est pas simple déjà de survivre déjà
tout à
avec
fait,
un,
tout à
un
fait,
élevage.
Tout à
hein,
fait.
Donc c'est assez compliqué.
Un petit scoop, Gaëlle.
Oui.
Nous sommes le jour de cet enregistrement direct. Nous venons d'apprendre, on a parlé tout à l'heure avec Étienne, que le gouvernement français, par le biais du ministère, enfin le secrétariat d'État au commerce et à l'artisanat, vient d'employer le terme ou de donner la possibilité aux crémiers fromagers, d'employer le terme et la référence artisanale. Mmh. C'est une nouveauté qui va beaucoup les aider, au même titre d'ailleurs que les cuisiniers. Vous savez, c'est un peu dans le débat du fait maison, du maître restaurateur, et autre chose, il y a quand même une prise de conscience qui va aller et qui doit aller et qui va aller dans le sens de la qualité et surtout de la reconnaissance de la qualité.
Absolument. On marque une pause sur ce scoop, cette information, et on se retrouve pour la troisième partie où nous poursuivons notre quête de bons produits avec des défenseurs du goût. À tout de suite sur notre plateau.
L'Art Déco, c'est la nouvelle émission culturelle de votre radio. Proposée et animée par Gaël Bossy-Lombard, ce magazine confronte acteurs économiques et créateurs.
Bonjour, c'est Philippe, votre voyant sur Lyon Première. J'aurai plaisir à vous proposer, dans le cadre de l'émission Au-delà des cinq sens, de vous retrouver en direct sur l'antenne tous les vendredis de 10h à midi.
Bonjour à tous, c'est Franck, nous vous attendons avec beaucoup d'impatience.
Ensemble, nous essayerons de soulever les voiles de votre futur, de votre passé, sur votre domaine professionnel, social, amoureux, familial. Le numéro à composer, le 0892-123-543. Ce numéro vous est facturé 34 centimes d'euros la minute. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Pour la dernière partie de notre émission consacrée à la gastronomie et aux bons produits de notre région, nous recevons, avec mon comparse Michel Godet, le maître des lieux, Christian Tédois. On le reçoit chez lui, c'est pas mal, moi j'aime bien.
Oui, puis maître, ça va bien, hein, maître cuisinier, maître restaurateur,
exactement.
Maître ouvrier de France.
Vous êtes meilleur ouvrier de France, on l'a dit tout à l'heure, en 1996, chef étoilé du Michelin en 2000 et président des maîtres cuisiniers de France. Pour vous, la cuisine rime avec plaisir, mais aussi innovation et qualité des produits. Les fêtes approchent à grands pas. Pour la restauration, c'est une période clé, une part importante de votre chiffre d'affaires annuel. Comment chaque année se renouveler, innover et étonner sa clientèle, Christian ?
Alors, on n'attend pas les fêtes de fin d'année pour se renouveler.
Évidemment.
C'est un travail de chaque jour.
Ça, j'imagine bien.
Et c'est vrai que j'ai la chance d'être entouré par une belle équipe. Et donc, déjà courant septembre, à réfléchir les uns et les autres à ce qu'on va proposer pour les fêtes de fin d'année. Et c'est toujours de très beaux échanges et il en sort toujours de très bonnes choses.
Comment ça se passe exactement ?
On fait des essais et on prend en goutte et on voit si on le retient pour mettre à la carte ou sur les menus de fête.
Alors, vous disiez bien sûr la qualité des produits. On en parlait avec Bruno Blunzer. Oui. Je pense que vous souhaitiez réintervenir en fait sur cette...
Oui, tout à fait. Bon, pour défendre un petit peu Bruno sur le côté... nourriture généreuse, on va dire, que peut être le cochon. Et pour aller dans le sens de Michel, où il faut aussi que les gens continuent à se faire plaisir, je crois que la société dans laquelle on vit ne pourra pas faire l'économie de réfléchir sur comment on peut mieux manger, comment on peut mieux consommer, comment on peut mieux acheter, comment on peut mieux conserver ses aliments à la maison. Il y a trop de gaspillage dans notre société. Notre rôle, je pense aussi, de rééduquer les gens. Il faut que les gens achètent chez les petits commerçants au fur et à mesure de leurs besoins, non pas remplir leur frigo pour après le jeter parce qu'ils n'auront pas le temps de le travailler. Et il faut qu'ils apprennent à choisir de bons produits, se faire plaisir, peut-être manger un peu moins, c'est vrai,
ouais.
Mais voilà, je crois qu'on peut très bien se faire plaisir et manger de tout, mais avec raison.
On n'apprend pas aux enfants le goût, à discerner les
goûts. Il y a la
semaine
du goût, pourtant, qui est là pour ça. Vous avez fait vous-même des interventions dans des écoles, etc. Oui. Christian, vous êtes un militant du goût,
absolument.
De la première heure, Christian.
Mais si vous saviez comme je me marre quand je fais ces animations avec les enfants, parce que forcément, la première question que je leur pose, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Et alors, je vous laisse deviner les réponses. Forcément,
oui.
C'est une véritable catastrophe. Donc, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation
bien
à
sûr.
Faire.
Donc, cette éducation du goût, elle commence petit, on est d'accord. Et comment elle se raffine, j'ai envie de dire. Mais comment on devient un gastronome ? Vous avez dans votre clientèle des gens qui sont des gastronomes, des gens qui viennent chez vous parce que vous allez leur proposer, comme ce que vous nous avez fait déguster, qui était absolument extraordinaire, ce petit pâté de perdreau.
C'est pour ça que je pense que chacun dans nos métiers, on a un rôle important à jouer en parlant avec nos clients, que ce soit quand ils viennent au hall, que ce soit quand ils viennent au restaurant, d'être proche aussi des enfants qui les accompagnent, d'attention, de leur faire déguster un petit truc, voilà, pour vraiment qu'ils se prennent au jeu de la dégustation et qu'ils en éprouvent une émotion. Et voilà, il faut
vous-même vous avez trois enfants qui ont été bien élevés, parce que de toute façon ils sont pratiquement tous dans la restauration.
Tant tout fait pour qu'ils ne le soient pas. On s'est constaté que même la troisième, la dernière, va y venir aussi.
D'accord.
D'après ce que je sais pour l'instant dans les dernières nouvelles.
Donc en fait c'est vrai que quelque part on va hériter de ce goût, ça c'est certain. Comment faites-vous le choix des producteurs avec lesquels vous travaillez ? Est-ce que les produits viennent
locavore
autour de
la
vous.
Mode.
Oui. De plus en plus, c'est vrai que le locavore, là, si je fais un peu de publicité pour les maîtres cuisiniers de France, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est vrai que ça fait plus de 60 ans que les maîtres cuisiniers de France, c'est leur discours de consommer autour de chez soi.
Bien sûr.
Et c'est vrai que moi, je milite à fond là-dedans parce qu'effectivement, je pense qu'on a un rôle sociétal important. Il faut soutenir nos producteurs et nos éleveurs. Forcément, si on ne les fait pas travailler, ils ne peuvent pas se développer et continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions et faire des bons produits.
Et là, du coup, vous... traiter directement avec eux ? Vous avez un collaborateur en interne,
oui,
ici,
moi
qui
ici
travaille avec vous ?
Effectivement, j'ai un responsable des achats qui est en même temps mon chef exécutif sur les 4 restaurants. Donc, son rôle, c'est effectivement de trouver les meilleurs produits, de faire le recrutement du personnel et de surveiller la qualité dans les 4 restaurants.
Ouais. Puis au-delà de l'économie de l'essence ou du gasoil et de la pollution, il y a un véritable aspect humain. Quand on travaille avec des artisans locaux dans un esprit locavore, on les connaît. Étienne Boissy le disait tout à l'heure, Bruno Blunzer pareil. La relation humaine est primordiale car cela permet, pour reprendre votre terme et celui d'Étienne, d'affiner les sensibilités et les souhaits gastronomiques. Parce que gastronomie, c'est quoi ? Un bon sandwich avec du bon pain, avec une belle tranche de jambon ou un bon morceau de fromage sur le coin d'un zinc avec un bon verre de vin,
c'est de la gastronomie.
C'est de la gastronomie. Il ne s'agit pas ou il ne suffit pas de prendre du caviar, de la truffe, du foie gras. La gastronomie, c'est le partage, la convivialité et la vérité des produits, fussent-ils des produits simples. Plus ils seront simples, plus ils seront nobles.
Bah, effectivement, alors je retiens tout à fait ce que vous dites, Michel, surtout que le guide Michelin a honoré Christian d'une étoile, mais il dit aussi, sur la colline de Fourvière, cet écrin ultra contemporain, élégant et design semble un balcon sur la ville. Christian Tête-d'Oie explore la tradition française avec talent, dont l'assiette, couleur et présentation rivalisent avec le panorama, côté terrasse de l'Anticaille, ambiance décontractée, belle saveur méditerranéenne et cuisine à la plancha. Donc, finalement, que des choses simples et de la convivialité. Et ça, c'est ce que retient aujourd'hui l'inspecteur du guide Michelin pour dire venez, parce que non seulement vous avez la vue, mais en plus la couleur dans l'assiette et surtout l'accueil, la qualité de l'accueil.
C'est vrai que le Michelin, effectivement, nous engage à respecter nos traditions, à être à coller au plus près de notre terroir. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche. C'est vrai que les chefs, on a eu tendance peut-être pendant des années à s'éparpiller un petit peu. Et comme disait Michel tout à l'heure, c'est peut-être plus difficile de faire bon avec des produits simples parce que ça demande à peut-être plus travailler, mais le résultat, on est encore plus sublimé.
Oui, c'est ça.
Et puis en plus,
finalement,
tout cela repose sur un triptyque. Un bon produit, une belle cuisson et le juste assaisonnement. Il n'en faut pas plus.
On le disait avec tous ces messieurs qui m'entourent, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, de manière générale, sont le point d'orgue aussi de vos chiffres d'affaires respectifs. Hein. C'est évident que là, à ce moment-là, c'est la gastronomie, on dépense un peu plus, on a envie de se faire plaisir, on invite, on va au restaurant, etc. Comment ça se prépare ? Est-ce que ça se prépare comme le challenge de l'année ? Il faut vraiment être là, etc. Comment ça se prépare précisément, Christian, avec vos équipes? Est-ce que tout le monde est bien prêt? Enfin, voilà, vous nous avez dit que vous avez testé avec vos chefs vos nouveaux produits. Voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui est mise en place au moment de ces fêtes de Noël?
Non, nous avons la chance de travailler bien toute l'année. C'est vrai que l'équipe est encore plus motivée parce qu'on a beaucoup de familles qui viennent. Donc, c'est
bien
toujours
sûr
des moments assez privilégiés de contact humain. Et puis, bon, c'est vrai que les fêtes, ça invite à l'énergie, à se surpasser. Donc voilà, c'est plutôt des beaux moments en cuisine.
En tout cas, vous, derrière le piano, ça c'est sûr, hein, pas vraiment au pied du sapin.
Après, moi, je suis ravi parce que je suis très, très frileux. Donc je suis avec mes 40 degrés en cuisine, je suis comme un chocolat en pâte.
Tout va bien, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été mes invités sur le plateau. Christian,
juste dire
le mot de la fin pour Christian.
Le mot de la fin, voilà.
Le mot de la fin, FIM. Hein.
Oui, donc, exactement.
Non, pour citer juste les sources du mot gastronomie qui a été inventé par Lyonnais, c'est Joseph Berthoud qui a inventé ce mot. Et il disait à la fin de son poème qu'il a écrit avec beaucoup de simplicité, un beau poème n'a jamais voulu un beau festin.
Très bien, ça sera l'appétit, un très beau
comme aurait dit Escoffier.
Merci, merci beaucoup.
Et
bonne fête de fin d'année à vous tous. Merci,
merci,
merci beaucoup.
Un bouillon de culture servi sur un plateau et enregistré chez Christian Tête-d'Oie dans son restaurant de l'Anticaille. Retrouvez nos invités tous les jeudis de 12h à 13h et les vendredis de 18h à 19h sur notre antenne.
Lyon Première Info, une semaine à Lyon, Wilfried Delacour.
Je vous retrouve tous les samedis et dimanches à 8h30, 11h30 et 13h30 pour passer en revue l'actualité politique, économique et culturelle d'une semaine à Lyon. A bientôt sur l'antenne. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Bonjour à toutes et tous pour la troisième partie de l'Art Déco consacrée à la gastronomie et aux bons produits de notre région. Nous recevons avec mon comparse Michel Godet, Bruno Blunzer de la charcuterie Sibylla. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, représentant de la charcuterie Sibylla. Coco n'est pas là, la célèbre Coco, c'est pas Coco Chanel, c'est une véritable figure qui est emblématique de la maison Sibylla que vous représentez aujourd'hui.
Alors, comme a dit Michel tout à l'heure, je pense qu'on peut l'appeler carrément une des dernières mères lyonnaises,
oui,
encore en activité, puisqu'elle a 82 ans, elle est là tous les matins avec moi, donc ça me permet également de faire la continuité de cette belle entreprise, bah, avec toutes les connaissances qu'elle a acquises, et ça me permet aussi de moi pouvoir rencontrer et développer aussi cette institution lyonnaise de la charcuterie.
Ce qui est extraordinaire avec Bruno, c'est que sa modestie va peut-être en souffrir, mais c'est désormais lui qui gère cette maison. C'est, en français dans le texte, c'est le patron. Mais il a tellement su faire un accompagnement et vice-versa avec Colette qu'aujourd'hui, cela se passe de la plus grande manière qui soit, en transparence, en amitié, en convivialité et en professionnalisme. Je crois qu'il faut le dire, Bruno, Coco est là et sera toujours là, présente au magasin dès 5 heures du matin. C'est même parfois elle qui ouvre.
C'est vrai.
Bruno se fait souvent doubler sur cet aspect-là. Mais je crois que c'est vraiment un exemple de transmission tel qu'on aime les voir à Lyon.
Alors justement, vous disiez, quand on a parlé pour préparer cette émission, Bruno, vous dites c'est la mamie de beaucoup de chefs lyonnais ou la maman de beaucoup de chefs lyonnais. Parce que finalement, elle a ce côté bienveillant, mais aussi d'une femme de cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. On disait tout à l'heure avec Étienne Boissy, c'était on se tape dans la main, ça y est, on a fait le contrat. Hein, donc il y a quelque chose aussi qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire de la rigueur et de la logique de cœur.
Comme a dit Michel, j'ai repris l'affaire depuis 3 ans. Et en fait, avec Colette, on s'est vraiment tapé dans la main. Il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a eu une question de confiance et d'échange.
Ouais.
Ce que je pense, quand je dis que c'est une des dernières mères ou la grand-mère de beaucoup de chefs de cuisine, elle a servi et elle continue à servir encore beaucoup de grands restaurants, dont Christian en fait partie.
Uniquement à Lyon. Hein.
Et pas uniquement à Lyon. C'est vrai qu'on a...
Ça, il ne faut pas l'oublier.
Par rapport à l'aide qu'a apporté M. Bocuse aussi à l'époque, je veux dire, donc ça a permis un gros développement sur la charcuterie lyonnaise, de reconnaître un peu la maison Sibylla un petit peu partout en France.
Bruno, il y a aussi une chose qui est importante, la qualité des produits. On le disait tout à l'heure, Lyon avec ses lyonnaiseries militantes, comme je le dis toujours, qui sont essentiellement des produits charcutiers, donc à base de porc. S'il n'y a pas la qualité des produits, que ça soit des saucissons truffés, pistachés, des Jésus, tout ce que l'on souhaite, s'il n'y a pas la qualité, une fois encore, il n'y a pas la réussite.
Il n'y a pas le goût.
Bah, comme un peu Étienne, la base, elle est un petit peu pareille pour nous. C'est-à-dire que moi, je m'efforce à travailler du porc, alors pas fermier, mais au moins un porc de la région Rhône-Alpes, en produits français d'origine et surtout frais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à partir de cette base-là, on fabrique et on conceptionne les jambons, nos saucissons à cuire qui en feront la réputation de la maison Sibylla, ce qui est clair, mais toujours à base
surtout quand on met un peu de truffes et de pistaches.
Surtout, oui, quand on rentre dans la période un petit peu festive où on rajoute des pistaches et de la truffe.
C'est-à-dire qu'il y a aussi, il me semble, avec la charcuterie, non seulement, bien sûr, cette histoire lyonnaise, une façon peut-être de travailler le produit. Toutes les déclinaisons de la gastronomie lyonnaise qui en ont fait, j'allais dire, sa réputation mondiale.
Exactement.
Hein, j'ai envie de dire que c'est
Il y a quelque chose
là
d'assez simple et qui est assez historique. Je pense qu'à Lyon, dans la gastronomie, on parle du mâchon. Quelque chose qui est important et c'est vrai qu'on mâchonne. Hein, on essaye de garder cette histoire
un
peu lyonnaise.
Juste un petit mot pour ceux qui connaissent pas le terme.
Oui, c'est ça.
Mâchon, ça veut dire faire un petit casse-croûte très matinal. Ça vient de l'époque où les canuts, ceux qui fabriquaient la soie, des potrons minaient, c'est-à-dire 7 ou 8 heures du matin. Ils avaient déjà embauché, comme disent les compagnons, ils avaient déjà travaillé. Et puis, ils venaient se refaire une santé, se refaire la griotte également, comme on dit à Lyon, avec un pot de Beaujolais, et puis après des pots de côte, et puis on se prenait une petite tête de veau, une petite andouillette, des choses simples à manger, roboratives, mais dont ils avaient besoin, des potrons minés. C'était ça les lyonnaiseries militantes, gourmandes. Et puis après, on a basculé vers les bouchons, les machons, ouais, on en parlera tout à l'heure.
Aujourd'hui, c'est totalement terminé, on ne mange plus de la même manière. Donc, est-ce qu'on vous titille pas? Est-ce que bientôt, vous allez nous faire des saucissons 0%?
Non, ça va être difficile parce que...
Arrêtons le gluten, arrêtons les 0%, arrêtons. Vivons avec modération.
Je provoque,
mais ça va être difficile,
évidemment.
Parce que, je veux dire, bon, comme on dit souvent, dans le cochon, tout est bon. Mais en même temps, il faut qu'il soit quand même un petit peu gras.
Bien sûr.
Et souvent,
on peut faire des très bonnes... Oui, parce que c'est le gras qui prend les saveurs. Hein.
Voilà.
Ne l'oublions pas, y compris dans le chocolat.
Par exemple, un très bon jambon sec. Actuellement, j'ai mis au point un jambon des Monts du Lyonnais. Un petit scoop parce que j'avais du mal à trouver un jambon qui est fabriqué dans les Monts du Lyonnais. Un bon jambon, on va manger aussi bien la partie maigre que le gras.
Ouais.
Aussi bien quand c'est un jambon sec. Donc, dans nos fabrications, on met... 20% de, on va mettre 20% de gras et 80% de maigre sur certains produits, mais c'est quand même assez important.
Pour vous distinguer, on parlait tout à l'heure avec Étienne Boissy de comment avoir des produits marqués Mons. Est-ce que c'est le cas chez Sibylla? Alors bien sûr, la fabrication, bien sûr, des saucissons, etc. Sont parfaitement marqués, mais vous le disiez, par exemple, ces fameux jambons, c'est-à-dire de travailler avec des producteurs qui vont écouler l'ensemble de leurs marchandises chez vous, plutôt qu'ailleurs.
Écoutez, c'est pas moi qui ai fait la renommée de la maison Sibylla. C'est quand même une charcuterie qui a presque un demi-siècle, donc c'est devenu une identité, c'est devenu une marque.
Bien sûr.
Et quelque part, moi, je m'efforce à continuer à développer cette marque et d'amener des nouveaux produits, de travailler, faire des nouvelles recettes aussi également, retravailler des produits qui se faisaient plus spécialement et d'amener des petites nouveautés.
Est-ce qu'on trouve les produits Sibylla en dehors des halles?
Oui. Dans beaucoup de boucheries charcuteries ou d'épiceries fines.
Oui, donc c'est logoté, la fameuse étiquette rouge,
oui.
Qui permet en fait de l'identifier et du coup vous distribuez, vous avez un réseau de distributeurs.
Ouais. On est une petite structure quand même.
Puis, oui, il y a 10 ou 10-15 personnes qui travaillent.
Oui.
Au-delà de la marque, c'est un label, avec
oui,
le sens étymologique du mot label, à savoir une sorte d'appellation, même si on ne parle pas d'AOC, d'AOP, ouais. D'IGP
bien
dans
sûr.
Ce cas-là. C'est beaucoup plus qu'une marque au sens marketing du terme.
Oui.
C'est vraiment un label qualitatif.
Alors, on va marquer une pause et notamment pendant cette pause, nous allons déguster ce que Christian nous a préparé. Alors Christian, qu'est-ce que c'est?
Alors, on vous a fait un petit pâté en croûte. Je ne vais pas faire de concurrence à Bruno, mais à base donc de perdreau. En fait, c'est une recette qu'on fait dans notre menu de dégustation. Donc, il y a un premier service avec le suprême et la cuisse est désossée et fait en petit pâté croûte comme ça.
Très bien. Alors, on goûte et on vous dit exactement ce qu'on en pense juste après.
Un bouillon de culture servi sur un plateau et enregistré chez Christian Tête-d'Oie dans son restaurant de l'Anticaille. Retrouvez nos invités tous les jeudis de 12h à 13h et les vendredis de 18h à 19h sur notre antenne.